Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je vous retrouve pour une autre émission, Mission Vision, une autre belle émission où est-ce qu'on parle de l'handicap visuel. Et aujourd'hui, je vais recevoir une invitée qui est de Trois-Rivières hein, présentement. Donc, on la rejoint par téléphone, Karine Descoteaux. Elle va nous parler d'un organisme que moi, je ne connaissais pas du tout, du tout. Donc, je trouve ça super intéressant de mettre en lumière plein d'autres gens qui font des tu sais, qui ont une mission magnifique avec au niveau de l'handicap visuel. Et après, on va aller rejoindre Annie Perrault et on va parler du deuil, hein, ce sujet fascinant que on peut parler dans plusieurs, je veux dire, dans plusieurs moments. On en a abordé. Le deuil, même avec mon émission la semaine passée, David Trudel. Tu sais, on parle souvent du deuil, mais là, on va vraiment comme plonger plus concrètement dans c'est quoi le deuil. Donc, bonjour Karine.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, vous-même.
Oui. Karine, là, je t'ai tutoyée, là. Est-ce que ça te va si je te tutoie?
Oui, ça va très bien, merci.
OK. Tu peux me tutoyer aussi. Karine, tu es directrice générale de l'Association éducative et récréative des aveugles et, comme je disais, c'est à Trois-Rivières.
Oui, tout à fait. Dans le fond, l'association existe depuis maintenant, je crois, 74 ans. Oh. Mais qu'on donne des services comme maintenant, là, c'est depuis mon arrivée, dans le fond, parce qu'il n'y avait pas exactement des employés là à temps plein à l'association.
Okay.
Ça a vraiment débuté là avec des bénévoles qui avaient l'intention, le goût de se rencontrer pour faire des activités.
Okay.
Donc, ça a vraiment commencé comme ça.
OK. Et toi, justement, vu que tu es directrice générale, mais moi, j'aime toujours ça, remonter aussi et faire un peu comme le parcours, finalement. Donc, mm-hmm. toi, Karine, au niveau de ton handicap visuel.
Mm-hmm. Moi, dans le fond, je suis devenue légalement aveugle il y a une dizaine d'années.
OK.
Donc, moi, j'avais la maladie que j'ai, c'est la rétinite pigmentaire.
Oui.
Donc, c'est une maladie génétique qu'on perd à la vue graduellement, là, au cours de la vie, là.
Et c'est ça, c'est graduel. Donc, ce qui veut dire que c'est pas quelque chose que tu avais connaissance quand tu étais toute petite, là.
Non, moi, j'ai bien vu, là, j'ai fait du sport, j'ai conduit, j'ai fait du quatre roues, oui.
OK.
Donc, j'ai bien vu, j'ai eu deux enfants aussi quand j'ai...
Avant?
Oui, à 20 ans, 21 ans, là, okay. J'ai eu mes deux garçons, oui.
Donc, c'est vraiment arrivé à quel âge? En fait, comment c'est arrivé? C'est que là, tout d'un coup, il y a eu une baisse de vision, t'es allé voir un spécialiste, ça s'est passé comment?
Bien, au début de tout, quand j'ai appris que j'avais la maladie, j'en avais pas nécessairement connaissance puisque j'avais une bonne vision.
Okay.
Je faisais beaucoup de sport à l'école. Cependant, mon frère était allé pour des tests visuels puis ils ont constaté qu'il y avait une maladie qui était la rétinite pigmentaire.
Ah.
Puis là, ils ont dit « Oh, est-ce qu'il y a d'autres enfants? » Donc, on est allé passer des examens et puis on s'est rendu compte là, que j'avais la rétinite pigmentaire. Mais moi, je voyais bien la distinction des couleurs, la profondeur et tout et tout. C'est venu un peu plus tard, là, tu sais, là, vers l'âge de 31 ans, là, j'ai commencé à porter des lunettes pour lire, mais je lisais encore là, dans les journaux, les choses comme ça. Mais je pense à 38 ans, là, je suis devenue légalement aveugle. Là. C'est une perte graduelle. Là, je me suis rendu compte. Oui. Un matin, je m'en allais travailler, puis c'est venu assez rapidement. Moi, je travaillais comme préposé à domicile, et puis un matin, je faisais mon chemin, puis je me rendais compte que j'étais dans un nuage. Tu sais, c'est comme plus blanc, là.
Oui, oui.
Puis là, c'est ça. C'est à un moment donné, tu peux plus faire abstraction.
Non.
Tu dis, quand j'étais jeune, je me disais, c'est pas pour moi, ça va arriver plus tard. Mm-hmm. On nie longtemps, tu sais, jusqu'au moment où on peut plus nier, là, tu sais.
C'est ça. Ça veut dire que toi, dans le fond, tu as eu, tu sais, on t'a dit le diagnostic, là, tu es adolescente, mais tu n'as pas de symptômes du tout.
J'avais 19 ans, oui. Non, j'avais
t'avais 19 ans. Ben, c'est ça.
Ouais.
Et en fait, c'est vraiment parce que c'est ton frère. Parce que si ton frère avait pas eu ça, toi, Tu n'aurais pas su à 19 ans, vu qu'il n'y avait pas de symptômes.
Exactement.
OK, mais là, ça veut dire que là, à ce moment-là, on dit que tu as ça, la rétinite. Mais comme tu dis, tu n'as pas de symptômes. Mais là, tu conduis la voiture, tu sais, pas longtemps après, tu as des enfants. Mais c'est à partir de quand que tu as commencé à dire, ah, ouais, là, je le vois que ça, je le vois plus bien, là?
Ben, tu sais, je te dirais, là, plus vers l'âge de 35-36 ans, là, j'ai commencé à voir que, admettons, j'étais assis autour d'une table à quatre, puis face, mettons, qui est en rectangle, au plus long du rectangle, là, je voyais pas les yeux de la personne. Je voyais la personne, mais pas les yeux, le nez, tu sais, les aspects du visage.
Ouais.
Puis, je te dirais qu'à 38 ans, je voyais encore, mais j'étais légalement aveugle. Là, tu sais, ça me prenait vraiment des appareils adaptés pour la lecture, pour toutes sortes de choses dans mon quotidien aussi. Là, des adaptations, même pour les trucs pour le ménage.
Ben oui.
Pour tout.
Mais ça, OK. Donc, c'est vraiment arrivé très tard, là. Tu sais, en général, souvent, les gens, tu sais, vont avoir un peu plus, même si ça arrive à début vingtaine. Mais là, toi, ça, c'est vraiment arrivé, tu étais plus proche de la quarantaine, là. Donc, tu sais, toi, toute ta vie, finalement, la vie d'adulte, parce que moi, j'ai tout le temps l'impression qu'une personne qui a qui commence à s'adapter quand elle est enfant, on dirait que j'ai l'impression que c'est déjà un peu plus facile parce que les enfants, ils ont une espèce de résilience naturelle que je trouve que nous, en vieillissant, à un moment donné, là, on dirait que c'est comme c'est comme un gros paquebot. Là, tourner le paquebot de bord, on dirait que ça commence à être difficile parce que tu as tout fait comme une voyante.
Exactement. Par exemple, moi, c'était le contraire. Je me suis mis en action là dès que j'ai vu que ça pouvait plus ça changerait pas, puis que j'étais compris. Puis là, je me disais, waouh, à mon âge, tu sais, je vais pas rester chez moi là à rien faire. Donc, je suis allée au centre de réadaptation. J'ai commencé des études aussi en psychologie.
Mais c'est ça que j'allais dire, parce que là, dans le fond, tu travaillais à préposé à domicile, donc tu étais préposé aux bénéficiaires.
Oui.
OK, c'est ça. Donc, c'était ça ta formation?
J'ai fait une technique.
Une technique. À l'éducation.
Je vais juste terminer. J'ai fait une technique à l'éducation à l'enfance. Donc, j'ai travaillé en milieu scolaire. J'ai eu longtemps une garderie. Par la suite, je me suis réorientée là, pour faire un cours de préposé bénéficiaire.
OK.
Et puis, j'avais travaillé en installation. Puis après ça, j'ai travaillé à domicile. Puis ensuite, là, j'ai perdu... c'est là que je perdais la vue. Là,
okay.
J'ai commencé à perdre la vue graduellement.
OK. Et là, comme tu dis, rapidement, tu t'es mis en action. Donc, OK, là, je peux plus faire mon métier comme je le faisais. Qu'est-ce que je fais? Et là, t'es allé à l'université.
Oui. Dans le fond, le premier pas, c'était de faire la demande là, au centre de réadaptation. Mm-hmm. Par la suite, je me suis inscrite à l'université pour faire des études en psychologie.
Oui.
Puis j'ai commencé. Il a fallu aussi que je fasse un cheminement parce que j'étais une fille quand même hyperactive dans le sens que je faisais beaucoup de sport. Tu sais, j'avais deux garçons adolescents.
Mm-hmm.
Tu sais, donc, je me suis réorientée dans mes passions, mes activités. Tu sais, moi, je faisais du dessin, je faisais toutes sortes de trucs là, qui demandaient de la précision ou de la vision.
Okay.
Fait que j'ai commencé à suivre des cours de guitare, à faire du sport aussi. Parce qu'on peut en faire du sport dans des groupes intégrés aussi.
Mais oui.
Lorsqu'on perd la vue, on n'a pas cette notion-là. Là. Tu sais, c'est très abstrait.
Mm-hmm.
Puis on pense qu'on ne pourra plus rien faire.
Oui, c'est ça. Et là, finalement, tu es allé utiliser. C'est la psychologie qui t'a tenté. Ben, en fait, on voit déjà que tu étais dans des domaines de relations d'aide. Là.
Tout à fait. C'est la psychologie parce que je me disais, je savais pas ce que j'aurais pu faire.
Ouais.
En ayant une technique d'éducation à l'enfant, je me disais avec un cours en psycho, peut-être je pourrais travailler comme intervenante ou.
Mm-hmm.
Puis ça a été l'option la plus rapide là, pour moi. Là. Puis c'est quelque chose que j'avais un champ d'intérêt aussi, la psychologie. Là,
Et là, à ce moment-là, donc dans le fond, t'es psychologue?
Non, non, vraiment pas.
OK, OK.
Faut faire un doctorat là, en psychologie.
Mais oui, c'est
pour
ça.
Être
OK, donc, c'est ça. Donc, tu t'es plus, je vais dire, t'es comme une intervenante. Là, dans le sens que tu as des bases comme éducation à l'enfance spécialisée, quelqu'un qui fait des cours en psychoéducation, mais qui va pas aller chercher justement son doc là, t'sais, pour avoir... le chapeau, le titre, là. Fait que dans le
fond. Ouais. C'est ça, mais dans le fond, c'est un bac en psychologie. Mais là, je suis directrice générale de l'AERA. Donc, là, je fais plus le côté administratif.
Oui.
Là, ça.
Oui, mais avant, dans oui. le fond, tu étais intervenante. Ou tu es allée presque rapidement comme directrice?
Ben, écoute, tout s'est fait. Ah oui, c'est ça, c'est le petit bout que j'ai sauté. J'ai fait, pendant que je faisais mes études en psychologie,
ouais.
je suis rentrée à l'AERA, dans le fond, pour travailler. Moi, j'ai été 8 mois en arrêt de travail, tu sais, là, pas de travail, mais j'étais étudiante.
Okay.
Puis, en faisant de la réadaptation, la personne qui me donnait des cours en braille, là,
ouais.
pour, ben, elle m'a demandé si je voulais travailler pour l'AERA. Ça s'est fait assez rapidement et facilement. Puis là, ça va faire 10 ans, là.
Mais est-ce que tu connaissais l'AERA quand on t'a parlé de ça au début? Non.
Non, moi, je faisais pas partie de l'AERA. Je connaissais pas beaucoup le communautaire, un peu ici et là, de ce qu'on
ouais.
entend, là,
ouais.
mais ouais.
Et ça veut dire que tu es allée au départ à l'AERA comme participante?
Non, comme agente de développement. Non, comme
OK, donc déjà comme ouais. pour travailler.
Oui.
OK. Puis, qu'est-ce que c'est l'AERA? Qu'est-ce que tu es allée chercher là-bas? Puis, c'est quoi exactement?
Mais l'AERA, c'est essentiellement, c'est pour aider, soutenir, maintenir l'autonomie des personnes en situation de handicap visuel. Puis ça comprend la base vision, la cécité, perception lumineuse. Et puis, dans le fond, on couvre Mauricie-Centre-du-Québec.
Okay.
Dans le fond, l'AERA était là vraiment pour des activités plus dites ludiques, des activités traditionnelles, des jeux. Ils ont fait des projets aussi de sensibilisation. Puis moi, lorsque je suis arrivée, moi, c'est tout de suite, là, d'emblée, là, je suis allée présenter là, une offre de service que j'avais... que j'avais rédigé puis que je suis allée présenter au CIUS pour dire ben voici ce qu'on fait.
Okay.
Puis je suis allée cogner aux portes aussi pour développer du sport en milieu inclusif dans des pavillons de loisirs. Et puis ça s'est construit vraiment comme ça dès le départ là, c'est ça, j'étais très proactive là, par
rapport à... Oui, ça se voit. Oui, oui. Mais ça veut dire que toi quand tu es arrivée là-bas,
mm-hmm.
tu avais déjà comme une idée en tête de qu'est-ce que tu voulais amener, c'est ta contribution à l'AERA.
Ben, écoute, au début, non. Au début, je me suis assise devant l'ordinateur puis j'avais pas grand-chose
okay.
devant moi.
Okay.
Puis là, je me suis dit, mais j'avais des appels, des demandes. Puis c'est avec ces demandes-là puis ces appels-là que j'ai bâti là, l'offre de service avec l'intervention psychosociale, les
ouais.
formations en technologie, les activités culturelles, traditionnelles, les camps. Il existait déjà des camps, mais tu sais, c'est ça. Là.
Les camps de jour.
Non, c'est des camps d'été, camps d'hiver. Il n'y a pas vraiment de camps de jour ici.
Okay.
Mais là, on a même une salle d'entraînement. On a toutes sortes de trucs là, qu'on fait, même des arts.
OK.
On va vraiment dans toutes les sphères. Là.
OK. Donc, l'AERA, c'est un endroit où est-ce qu'on va, où est-ce qu'il peut avoir et du soutien psychologique et des activités, où est-ce qu'on va socialiser... Ça ressemble
Exactement.
Un peu à ça. On peut aller
Moi,
autant s'entraîner.
Moi, dans le fond, je résumerais ça à un carrefour de service.
OK,
c'est
oui.
C'est vraiment, là, ouais.
OK. Donc, c'est vraiment, on s'en va là, puis on peut aller faire notre entraînement. Exemple, une personne qui s'entraîne à tous les jours, là, ou 3 fois par semaine, elle peut aller, dans le fond, s'entraîner là-bas.
Exactement. Puis on a un entraîneur spécialisé aussi là pour lui donner des cours de karaté, d'autodéfense, de boxe, de l'entraînement aussi avec les machines.
Oui.
Mais tu sais, on peut faire l'apprentissage du braille, on peut apprendre la technologie, on peut apprendre, on reçoit même des jeunes pour qu'ils puissent venir développer là des compétences en milieu de travail.
Ah ouais.
Ça, c'est vraiment de tout. On aide les organismes aussi. On fait des prêts d'appareils. Il y a des bureaux multiservices aussi pour la cécité et en basse vision.
Ouais, okay.
Donc, on a vraiment un éventail très, très large.
OK, mais là, la façon que tu en parles, là, ça a l'air d'être immense. Là. Fait que c'est vous êtes combien de professionnels là-dedans? Vous êtes 45?
Non, dans le fond, là, les gens qui sont là, tu sais, comme la kinésiologue est là pour des choses très, très spécifiques, l'entraîneur aussi, puis le formateur en technologie aussi. J'ai un agent administratif là qui va faire certaines tâches, là, la petite tenue de livre, mm-hmm. Il va faire du triage dans les papiers des gens, compléter des formulaires, faire les impôts. Mais pour le reste, c'est vraiment moi. Là. Tout ce qui est sensibilisation, concertation, demande de financement. Je vais même faire des offres de services lorsque on le requiert. Mais ouais.
C'est OK, ça, mais c'est vous êtes une petite équipe, là.
Oui, quand même, oui.
Mais oui, pour tous les services que vous avez, là, c'est vraiment une petite équipe, là. Donc, vous travaillez très fort. T'sais, oui, toi, tu es directrice générale, mais clairement que je te vois comme une directrice générale, mais qui est un peu comme une petite pieuvre.
Exactement.
C'est ça. Parce que je pense pas que tu peux juste te concentrer sur le volet direction générale. Là, parce
non.
C'est ça. Mais il y a vraiment quelque chose de super intéressant que je trouve dans le tout ce que vous offrez. Parce que, tu sais, là-bas, il y a des groupes de soutien.
Oui.
Mais c'est ça. Alors là, il y a des intervenants.
Oui, c'est vrai, il y a un intervenant psychosocial là, qui va donner, admettons, il va travailler des objectifs de vie,
ouais.
Il va laisser les gens travailler, là, parce que lui, il a un cours en éducateur spécialisé,
ah, oui.
Fait qu'il va travailler sur certaines adaptations, il va aller marcher ouais. avec eux, il va avoir des groupes de discussion, des causeries, oui, tous ces volets-là, c'est un intervenant.
Et petite question, justement, l'intervenant, est-ce que c'est quelqu'un qui a un handicap visuel lui-même ou pas?
Non, dans le fond, les seules personnes qui ont un handicap visuel, il y a moi et le formateur en technologie. Là,
OK.
Qui va donner... ouais. Mais c'est vraiment un bon. Là,
mais non, mais en même temps, c'est correct parce que moi, l'Institut Nazareth et Louis Braille, ben, en tout cas, moi, c'est ça mon centre de réadaptation. Toi, je ne sais pas, mais nous, on couvre quand même Nazareth et Louis Braille, ils couvrent la Montérégie et tout ça, là, mais je pense pas que ça sera jusqu'à Trois-Rivières.
Non, ici, à la Trois-Rivières, okay. C'est intervalle. Dans le fond, il couvre Mauricie-Centre du Québec.
Ah, bon, ben c'est ça. Mais tu sais, moi, mon intervenant qui m'a appris la canne blanche, il voyait, là, tu sais. Donc, tu sais, c'est pour ça, tu sais, fait que c'est très correct aussi d'avoir des intervenants qui ont une vision à travers ça, parce que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé qui voit, là, finalement. Je me sentais beaucoup plus en sécurité d'apprendre à marcher dans la rue quand je le sais que la personne qui me montre à apprendre à marcher, elle voit s'il y a des voitures qui s'en viennent. Ouais. Donc, pour
c'est
ça.
Fait. Surtout lorsqu'on débute avec
ben
la
oui.
visuelle.
Ben oui.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait autre aussi, là, dans le fond. C'est les visites exploratoires des terminus, des trajets d'autobus.
Ah oui.
Ouais.
Okay.
On a un partenariat avec la STTR aussi qui nous donne la gratuité lors des passages.
Mais là, dans le fond, à Trois-Rivières, là, parce que c'est à Trois-Rivières, mais ça couvre un petit peu plus grand que Trois-Rivières, mais est-ce que c'est comme le seul organisme qui a cette mission-là? Tu sais, comme nous, à Montréal, on en a plusieurs, là.
Non, okay. Nous, on est les seuls. On couvre, c'est très grand comme territoire. C'est Mauricie-Centre du Québec.
Ouais.
Donc, on peut autant d'être appelé à Parent, la TUC, à Victoriaville, Warwick et ou autre, là.
Okay.
Ville, Saint-Ferdinand, ouais.
Ça ressemble à quoi un peu là, la clientèle? Parce que là, dans le fond, c'est pour adultes. Il peut y avoir des ados, des enfants.
Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est oui. de payer sa cotisation. Mais on a des membres parents, des membres bénévoles et des membres actifs.
Okay.
Donc, les membres actifs, ils ont un handicap visuel. Les membres bénévoles, ils adhèrent à la cause de la déficience mm-hmm. visuelle.
Mm-hmm.
Puis, les membres parents, tout à fait.
Ah, ouais. Mm-hmm. Ah, fait que ça peut être aussi que dans un gym, là, je donne celle-là l'exemple, où ça peut être dans un cours de peinture, où, tu sais, il peut avoir...
une déficience intellectuelle santé mentale. Ouais.
Oui, OK. Ah, donc, ça veut dire que automatiquement, ils doivent avoir un handicap visuel.
Tout à fait.
Mais, avec ça, c'est vrai qu'il peut avoir d'autres... tu sais, comme d'autres diagnostics là, qui s'ajoutent à ça.
Exactement.
Ah ben ça, fait que c'est ça. Donc, ça peut être, comme tu dis, déficience intellectuelle, autisme, santé mentale.
Santé mentale, sourdité.
Ouais.
Oui.
Ouais. Ah, vous avez aussi des personnes qui ont...
Oui.
Oui, OK. Puis ça, à ce moment-là, est-ce que vous travaillez avec des interprètes?
Oui, généralement, c'est pratiquement indispensable là, d'avoir un interprète. Là, puis ça, c'est quelque chose qui coûte cher, puis c'est pas toujours couvert. Eux autres, ils peuvent couvrir, admettons, des activités comme des conférences, des choses qui sont en lien avec santé et services sociaux. Mm-hmm. C'est vraiment... Mais pour... pas pour tout, là.
Non, vraiment pas, là. Mais là, ça veut dire que dans ce beau bassin là, de clients, là, vous en avez à peu près combien, là, des usagers?
150 membres. Mm-hmm.
Et il y a, dans le fond, une programmation qui est là, tu sais, comme à tous les jours. Là. Tous les jours, là, les gens pourraient se retrouver à l'AREA. À l'AERA.
Oui, tout à fait. Dans le fond, il y a une programmation qui sort à chaque saison et puis avec des activités selon la saison et puis parce qu'à l'été, on allège la programmation. Mm-hmm. Souvent, les gens sont plus actifs là dans leur vie lors de cette saison.
Ouais.
Mais ouais. On adapte selon les saisons, puis il y a une programmation. Cependant, il n'y a pas une activité nécessairement là de structurer à chaque jour.
Oui,
les gens
oui,
vont venir pour utiliser la salle de conférence, la salle d'entraînement, mais il y a des activités entre 3 à 4 jours par semaine.
Mais quand même, hein? C'est très beaucoup, là. Moi, je trouve, en tout cas. Et ça serait quoi, là, au niveau... Parce que là, justement, t'es directrice générale. Donc, t'es dans une posture aussi où est-ce que, là, les demandes de subventions... Bon, t'es tout ça, là. Hein?
Oui.
C'est quoi, là, les enjeux? Parce que là, en plus, on le voit, là, le communautaire, il y a des coupeurs, les personnes en situation de handicap, le PAD, le SI, le... Bon... Au niveau, toi, là, de ce que tu expérimentes, là, ça, c'est quoi? Là?
Les enjeux, l'enjeu premier, ça ne te surprendra pas dans la mesure où c'est le financement.
Mais
parce que l'handicap, on a eu la nouvelle personne qui est rentrée là, comme au poste du gouvernement, puis elle a parlé de toutes sortes d'enjeux dans la société, mais on nomme jamais l'handicap.
Non.
Donc, l'handicap, puis maintenant, l'handicap, c'est très, très large, hein, reconnu. Là, donc, la part du gâteau est plus petite.
Ouais.
Donc, l'enjeu, oui, effectivement, il y a ça. Et puis, l'enjeu, c'est de se faire reconnaître, d'avoir une place dans la société. Je trouve que l'handicap visuel, souvent, est... T'sais, c'est pas sexy, comme on dit.
Non, c'est drôle, parce que c'est ça que je dis, moi aussi. C'est, je trouve tellement pas ça sexy, un handicap visuel, là. C'est ça. Oui, je comprends très bien.
Donc, c'est plus difficile de faire sa place, d'avoir aussi, tu sais, moi, je travaille sur beaucoup de tables de concertation, donc je travaille sur les enjeux, surtout numériques, tu sais, entre autres, les fractures numériques, je trouve ça tellement important, tu sais, d'avoir l'accessibilité, tu sais, puis d'avoir la chance de compléter, d'avoir la formation, compléter des formulaires en ligne, payer en ligne, autant qu'un voyant, tu sais, puis consulter l'information, faire ses achats. Donc, mais trop souvent, tu sais, ils font des mises à jour. Il faut vraiment être bon là, pour pouvoir tout pouvoir faire par soi-même là, de façon autonome. Là. Puis c'est pas donné à tout le monde. Puis quand tu arrives pour expliquer ça, là, ils vont dire oui, on fait notre possible. Tu sais, comme là, je suis en train de faire une demande de financement à l'URLSM, puis tu sais, je lui dis que son formulaire, je peux même pas le compléter en ligne. Donc, j'ai fait un copier-coller pour l'avoir en Word. Elle me le rend accessible que je puisse l'envoyer par courriel, mais ça devrait pas.
Ben non, il devrait déjà être accessible.
Tout à fait.
C'est ça. Mais on le sait, on est dans une société de voyants, là. Donc, tu sais, choses sont vraiment adaptées pour des gens qui voient. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'enjeux qu'on peut voir et souvent même des choses un peu...
Mais c'est toujours à recommencer. Les enjeux.
Ouais, c'est ça.
Moi, je travaille en accessibilité aussi avec les villes. Tu sais, on va parler des pancartes, des affiches qui sont sur les trottoirs, tout ce qui bouge. Mais c'est toujours à recommencer. On lui dit une année, puis là, il faut recommencer pour qu'il modifie telle situation, notamment là, les pancartes, là, les panneaux de signalisation des travaux. Là. Mon Dieu, mais
c'est
des trottoirs.
Dieu,
là.
Non, ça là, c'est, ça n'a pas de sens. Comment que, tu sais, exemple, justement, le samedi, dimanche... Il y a personne. Tu sais, des fois, on peut s'en sortir avec le bruit, avec... Moi, souvent, la personne va me voir de loin. Elle va dire « Madame! » Mais la fin de semaine, là, le nombre de fois là, que je me dis « Eh, mon Dieu! » Je pense que là j'aurais pu me tuer, là, tu sais.
Oh oui, c'est ça.
T'sais, vraiment, là, je tombais littéralement dans un cratère, là, tu sais. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment des enjeux vraiment de sécurité, là. On fait pas, tu sais, c'est vraiment la sécurité. Puis pour moi, c'est la chose la plus importante, là, de se sentir en sécurité dans sa ville, dans ses déplacements, dans, tu sais, tout ça, là.
Oui, exact.
Puis est-ce que justement là, les participants là, vous pouvez les accompagner comme tu sais tout le temps là, tu sais qu'il y a comme tu sais du moment que tu arrives après ça tu peux rester avec nous puis on t'accompagne dans ton processus ou il y a quelque chose des fois il y a des délais là, tu sais c'est comme là laisse la place à quelqu'un d'autre.
Non, parce que généralement, les gens vont avoir des besoins, que ce soit en technologie ou en intervention psychosociale. Puis, à un moment donné, tu sais, ils sont une couple de semaines, puis là, après ça, ça ralentit, c'est ponctuel. Mm-hmm. À un moment donné, ils reviennent parce que là, ça change, puis ils évoluent, puis tu sais, ils font d'autres choses. Donc, là, ils vont refaire des demandes. Mais il y a tout le temps un roulement, je te dirais, là, par rapport au service.
Puis là, dans le fond, c'est l'ARA, parce qu'on l'a dit une couple de fois, là, à ERA, donc c'est l'acronyme. Là.
Oui.
Mais dans le fond, les gens, ils peuvent aller sur le site Internet, ils écrivent ERA ou ils écrivent Association éducative?
Non, ils peuvent juste taper ERA, effectivement, puis ils vont arriver sur... c'est sûr qu'il existe d'autres choses qui s'appellent l'ERA, mais...
Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que... c'est ça, c'est que moi, quand j'avais écrit l'ERA, je m'étais pas ramassé sa bonne affaire.
Mais c'est ça, mais dans le fond,
je pense qu'il faut mettre un E accent aigu.
Un mot-clé là, à côté.
Oui, ou je pense que quand on met le E accent aigu,
oui.
Ça, c'est ça. Sinon, c'est A-E-R-A. Tu sais, l'autre, c'est A-E-R-A.
Lui, c'est A-E-R-A.
Oui, c'est ça, exact. Donc là, les gens, là, s'ils veulent s'inscrire, comment ça fonctionne? Là, tu as parlé qu'il fallait qu'ils soient membres, là, qu'ils paient leur cotisation, mais comment ça marche? On appelle?
Oui, tout à fait. Dans un premier temps, les gens vont me contacter, soit par courriel, par téléphone, et puis on prend rendez-vous, on discute ensemble c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur enjeu, est-ce qu'ils ont de l'entourage, c'est quoi la déficience visuelle, tout ça, puis dans le fond, après ça, ils deviennent membres assez facilement. T'sais, lorsque tu as un besoin, lorsque tu es reconnu handicapé visuel, on les prend, là, les gens. Là.
Ben, merci beaucoup, Karine. Ça a été vraiment un plaisir. Je trouve vraiment que c'est un bel organisme. Je suis contente de l'avoir mis en lumière. Et on invite les gens à aller sur le site Internet pour avoir plus d'informations à ERA. Merci beaucoup, Karine.
ERA0417.com.
OK, c'est bon, parfait. Bonne
merci
journée.
Au revoir.
Et tout de suite après la pause, je rejoins Annie Perrault, psychologue.
Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Et maintenant, j'accueille Annie Perrault, psychologue, ma super collaboratrice. Allô, Annie!
Bien, bonjour, Julie.
Comment vas-tu?
Écoute, je vais bien, ça va bien. Merci, et toi?
Oui. Et là, on fait un gros segment. On parle du deuil. Hein? Là, on rentre dans le croustillant. C'est comme je disais, c'est dans toute mes entrevues, le deuil en fait partie. Il y a tout le temps un petit peu de deuil dans une discussion et tout ça. Mais là, on va vraiment décortiquer le deuil parce que moi, je trouve que le deuil, on dirait que c'est ça, tu sais, il y a des étapes. Tu passes les étapes une après l'autre, tu sais, un peu comme « Yeah, t'es rendu à la deuxième étape, tu gagnes un morceau de robot, puis à la fin, t'as fini, t'as gagné. » Terminer ton deuil. Mais non, c'est pas ça, hein?
Oui, c'est pas ça exactement.
Et moi, ce que je trouve intéressant, Annie, c'est parce que justement, c'est que t'es psychologue. Donc, t'as l'expertise aussi pour parler du deuil, mais pour être capable aussi de, quand tu rencontres la personne, de savoir c'est à peu près quoi, à quelle étape ou est rendue à peu près où et de quoi elle aurait besoin.
Exactement.
Mais c'est ça.
Bon. Toi, là, quand on pense le mot deuil, quel mot vient avec ça pour toi, Julie?
Moi, quand je pense au deuil, moi, je pense vraiment là, à une espèce de tsunami. Là.
une giga tempête.
Ah ouais, giga, giga, giga tempête.
OK.
Ouais.
Une tempête au niveau des émotions, au niveau de tes pensées, de tes repères.
Ah, oh, tout ça.
Tout ça en même temps,
ouais.
C'est une giga tempête.
Ouais, ouais, ouais. Vraiment, parce que la perte de repères, il va y avoir les émotions qui vont être associées à ça.
Ouais.
Mais je dirais, moi, que ça se passerait peut-être un peu moins dans les pensées.
Mm-hmm.
J'ai plus l'impression que ça se passe dans le concret, là, donc dans l'action, dans vraiment la sensation de « hé », là, un peu comme « je suis perdu, me suis perdu de chemin », là, tu sais, donc
ouais.
Panique ouais. À ce moment-là. Tu sais, on dirait que moi, c'est l'émotion qui embarque et ce qui va m'aider, c'est quand je l'ai vécu,
ouais.
Comme une fois, deux fois, au fur et à mesure, c'est moins intense, c'est moins long. Mais au départ, un tsunami, j'ai quatre
ouais.
ans et demi, là.
Oui, 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 oui.
Ouais.
Alors, c'est fascinant, parce qu'effectivement, les gens vont avoir toutes sortes de mots qui accompagnent le deuil.
Mmh.
Comme ça peut être une perte, ça peut être une expérience complexe,
mmh.
Ça peut être un détachement, ça peut même être un soulagement, des fois.
Ah oui, hein? Ben non, mais t'as tout à fait raison, mais je trouve ça super intéressant, juste le fait que tu dises à quoi tu penses. Tu sais, c'est comme si déjà, ça va donner des indications.
Oui. Exactement.
C'est ça. Moi, on le voit, là, c'est une tempête. Là. On est vraiment dans le concret. Il faut trouver une stratégie là, maintenant. T'sais, on n'est pas dans « Ah, il me semble que je respire mieux. Hein? »
Oui, c'est pas ça, ouais, c'est pas... c'est pas ça qui vient d'entrer.
C'est l'inverse. Je ne respire plus.
Okay, ouais.
Mais là, à ce moment-là, est-ce que on est tout le temps, c'est tout le temps important de parler d'étapes. Est-ce que juste le fait que moi je te dis tsunami, tu as besoin de faire après ça parfait, tsunami, OK. Là, ça veut dire que dans ces étapes, un tsunami, ça doit être le choc.
Effectivement. Ben, on va parler d'étapes quand c'est vraiment comme tu l'as nommé, c'est qu'on commence par le 1, 2, 3, 4, 5, puis c'est terminé.
C'est ça.
Bingo. Mais en fait, on va parler plus d'un processus. En fait, il y a différentes théories. Il y a la théorie qui est plus par étapes, puis il y a une théorie qui est plus par phase.
Oui.
Puis quand on dit par phase, ça veut donc dire qu'on peut se promener à travers
c'est
les
ça.
Phases et non pas faire 1, 2, 3, 4, 5, merci.
Non, et ça veut dire qu'on peut être rendu à la phase 5, mais après ça, on revient à la phase 2.
Ça peut arriver exactement.
C'est
ouais.
ça. OK. Puis est-ce ouais. que c'est vraiment comme, quand tu dis les phases, mais est-ce que les phases, tu rends ça aussi comme, justement, le, en premier, le choc, après ça, la peine, la colère, le déni, nadada. Bon, je n'ai pas dit dans l'ordre, là, mais c'est ça. Est-ce que,
ouais.
automatiquement, phase, le choc, ça peut durer, exemple, 3 mois, mais là, après ça, phase 2, déni, où je pourrais être dans la colère, là.
Bon. Alors, ce qui se passe, là, si on y va par phase, puis on va garder des grandes lignes plutôt que d'essayer de décortiquer ça par petites cases.
Oui.
Mais les grandes lignes, c'est que effectivement il y aura une phase de choc déni qui fait que c'est vraiment une période où, là, on a un événement qui nous bouscule d'une façon importante, de toutes sortes de façons.
Oui.
Donc, il y a une tempête qui vient avec ça à l'intérieur, au niveau de nos valeurs, de nos repères, de nos émotions. Puis, on a à essayer de digérer ça un petit peu, boucher une bouche à la fois, ce qui est très complexe à faire parce que c'est majeur.
Oui.
Donc, cette phase-là, choc déni, je pourrais pas le nommer en termes là, de temps normal, puis parce que ça nous amène un peu dans une vision qui pourrait, ce qu'on dit, là, pathologiser le deuil.
Ah oui, oui, oui.
Puis, typiquement, ça serait pas une façon pour moi de travailler, de dire, ah oh, oui, ouais, on a passé 2 semaines et demie, c'est grave.
Oui, c'est ça. Ah, on est rendu à l'autre étape.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Donc, après l'autre phase, ben c'est vraiment ce qui suit, c'est vraiment une désorganisation où là, il y a beaucoup d'émotions qui se bousculent.
Oui.
Et ça se fait pas une après l'autre. Elles se font d'une façon, des fois, déconstruite. Hein? C'est comme si ça se présente comme elles viennent.
Mm-hmm.
Ça peut être la tristesse, la colère, le regret. Ça peut être une forme d'ambivalence.
Mais
ça
tu vois, déjà, les mots que tu dis, Annie, c'est même pas les mots... C'est même pas tous les mots dans les mots d'étape, là. T'sais, donc, c'est
ouais,
ça. Ce que je comprends, c'est qu'il peut même en avoir d'autres.
Oui. Donc, en fait, cette tempête-là d'émotions, elles peuvent être toutes là.
Mm-hmm.
Moins là. Il peut y avoir aussi une forme de d'affect plat, tu vois, où là, la personne est vraiment encore un peu déconnectée de ses émotions. Puis, tout dépendant des gens, hein, on ne vit pas tous les choses de la même façon, comme on goûte pas les choses de la même façon, puis comme on n'entend pas les mots de quelqu'un de la même façon. Donc, chaque expérience est vraiment unique. Et c'est ce que je voulais surtout faire ressortir dans ces étapes-là ou ces phases-là, de pas essayer de tenter là, de mettre ça dans une conserve, puis on devrait tous faire le processus de la même façon.
Et là, dans le fond, là, bon, tu as parlé un petit peu de ces émotions-là et tout ça, mais... OK, si on regarde justement, là, je reviens encore aux étapes, là, mais c'est parce que c'est ça, c'est que le deuil, c'est qu'on a espoir qu'à un moment donné, on dit c'est réglé, mon deuil il est réglé. On est-tu là, là, au niveau du deuil, où finalement on se rend compte que il n'y a pas vraiment rien qui peut définir que tout d'un coup, toi, tu vas faire un deuil parce que dans la vie, éventuellement, on fait notre deuil. Parce que, tu sais, souvent, on va entendre ça, tu sais, fais ton deuil, là.
Oui.
Mais je peux-tu jamais faire mon deuil?
Bien, j'en ai croisé des gens qui ont vécu des deuils traumatiques, dans le sens où ce qui est arrivé, la perte d'une personne chère ou d'une partie de soi ou d'un plan professionnel, peu importe. Bon, typiquement, un deuil traumatique, ça va être vraiment quelque chose qui revient à une relation importante.
Oui.
Mais, donc, au bout de 5 ans, c'était encore les mêmes mots, les mêmes émotions qui étaient encore vivantes. Et c'est extrêmement souffrant.
Ben
et,
oui.
Et là, ça prend de l'aide depuis bien avant ça, là, bien avant 5 ans, je dirais, là. Même si je veux pas rendre les étapes un peu trop en conserve.
Oui.
Il reste que... À un moment donné, la souffrance mérite du support qu'on va aller chercher. Donc, typiquement, l'idée, c'est qu'après une désorganisation, où là, il y a toute la tempête d'émotions, il y aura une accalmie, il y aura une réorganisation, il y aura des tâches qu'on va mettre en place qui aident à procéder au deuil. Mm. Il y aura une quête de sens qui va se faire avec des échanges parfois de pardon avec la personne qui est disparue ou avec l'événement qui nous a bousculé. Donc, on aspire à une acceptation à quelque part.
Mais
on aspire
à
une accalmie.
Donc, c'est possible d'avoir, de sentir qu'on a fait le deuil.
Oui. Ben oui, c'est ce qui est visé.
C'est ce qui est visé, c'est ça. Mais si on parle de quelque chose qui est cyclique, comme exemple une perte de vision qui est dégénérative, par exemple.
Oui. Alors là, si c'est dégénératif, par exemple, c'est possible qu'on ait plusieurs deuils.
Ah ben c'est ça. C'est ça, hein?
Qui perdurent dans le temps.
Oui.
Comme n'importe quelle maladie dégénérative où l'on y a une perte. On s'adapte, idéalement, on s'adapte. Mais là, il y a une autre perte qui s'ajoute. Mm-hmm. Puis il y a une autre, un peu comme un vieillissement qui bouscule un peu, là, tu vois.
Bien, en fait, moi, je parle de la perte de vision, tu as parlé de la maladie, mais aussi, on peut dire, finalement, tout le monde va expérimenter ça à un moment donné, de dire, j'ai plus 20 ans, tu sais. Bien, c'est ça. Fait qu'il peut avoir un deuil aussi pour la personne qui perd sa jeunesse, là.
Qui perd la jeunesse. Puis le deuil en soi amène à envisager d'autres deuils.
Ouais.
C'est comme si, ben c'est ce que je reçois parfois en clinique, c'est quoi? Là, je viens de perdre mon conjoint, ou je viens de perdre ma cousine très chère, ou je viens de perdre mon emploi pour lequel j'ai mis corps et âme, peu importe, ou je perds l'usage de mes jambes. Et puis, waouh, je pensais pas que ça pouvait m'arriver de perdre.
Oui.
Et là, ça nous amène à notre propre fin, à notre propre changement dans le temps.
Ouais, ça, c'est intéressant, ça. Fait que là, ça veut dire que le fait d'être confronté au deuil, c'est que tu te rends compte que toi aussi, à un moment donné...
Tu vas être confronté à différents deuils de ta propre existence.
Exact, c'est ça.
Ouais.
Ne serait-ce que juste même de dire, éventuellement, c'est moi qui vais mourir.
effectivement, que ma vie aura peut-être même une fin. Là. On s'en va vers ça d'habitude.
Ben, en tout cas, jusqu'à date, on n'est pas éternel.
Non, ça, c'est pas arrivé encore.
Mais en même temps, c'est ça qu'on dit, Annie. C'est comme si tout le monde est confronté au deuil. En partant, ouais. Tout le monde va vivre des deuils dans sa vie de toutes sortes de grosseurs, là, que ce soit ouais. Juste quand on a 14 ans, puis notre chum nous laisse, puis que là, c'est la fin du monde, puis qu'on regarde nos parents, puis on dit « Toi, tu sais pas ce que c'est aimer! Hein? » On a tous vécu ça. Après ça, quand on y repense, on se dit « Bobo, tu connaissais pas la vie, ma cocotte, à 14 ans? » Mais c'est ça, ça veut dire qu'on est confronté à notre vie constamment à des deuils. Mais qu'est-ce qui fait que quelque chose va être un deuil puis quelque chose va juste être une transition?
Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une forme de capacité d'accepter que c'est ainsi fait. C'est que notre vie va être faite de transitions et à travers ça, il y aura des deuils.
Oui.
On ne reste jamais sur le même plan, de la même façon toute notre vie.
Non.
Et lorsqu'on accepte ou on intègre bien les transitions de notre vie, eh bien, il y a une facilité là, d'accueillir les deuils qui viennent avec. Mais c'est parfois, ils sont plus violents que d'autres, là, ces deuils-là ou ces pertes-là.
Oui.
Dans des transitions plus, par exemple, accidentelles,
ouais.
Ou qui n'étaient pas planifiées. Là.
Exact.
Ça shake un peu plus.
Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Parce qu'on dirait que là, tu n'as pas pu te préparer.
Oui.
Et justement, est-ce que, tu sais, au niveau du deuil, il y a quelque chose d'un petit peu plus, comme tu dis, tu as nommé quelquefois, puis on en avait parlé dans une autre chronique, au niveau du trauma, hein?
Oui.
Donc, vivre une expérience, parce qu'on peut vivre une expérience traumatique, et est-ce que nécessairement c'est un deuil? Je pense pas.
Pas toujours.
Mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait que le trauma va provoquer finalement un deuil?
Comment le deuil peut être aussi traumatique?
Deuil est traumatique? Ouais. Ouais, c'est ça comme.
En fait, ça va être souvent. Ce qui fait que quelque chose est traumatique, c'est qu'un événement va être plus fort que nos capacités de l'absorber.
OK.
Toi. Alors, typiquement, puis nos capacités de l'absorber puis de le digérer ensuite, parce que typiquement, on va rebondir, tout dépendant de notre niveau d'énergie, de disponibilité à faire face à certaines situations. Mais quand l'événement est particulièrement intense, on est submergé d'une certaine manière.
Oui.
Parce qu'il y a un caractère qui peut être effrayant, parce que l'intensité émotionnelle nous dépasse. Et là, il y a une empreinte en dedans de nous qui va être vraiment plus importante, puis qui mérite à ce moment-là peut-être un petit peu plus rapidement d'intervention.
Okay.
Mais ce qui fait qu'on aurait, par exemple, un deuil traumatique, ben on va avoir, par exemple, quelqu'un qui n'a pas accès à des mémoires agréables, c'est plutôt des mémoires particulièrement intenses, des images marquantes, et puis toutes les émotions qui viennent avec, tout le corps qui se tend, qui devient tendu, qui devient en mode survie. Alors ça devient vraiment une situation plus compliquée parce qu'on pour traverser les étapes émotionnelles de ça, on perd pied.
Oui.
Ouais.
Et est-ce que on pourrait dire qu'il y a des gens que dans leur bagage de parce que tu sais il y a tout le côté biologie, tempérament parce que je me rappelle quand j'étudiais en psychologie, tu sais il y avait vraiment ça, tu sais il y a t'arrives avec aussi tu sais ta génétique, tes parents, tout ça, l'éducation, mais t'arrives avec ton propre tempérament là.
Oui, absolument.
C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est comme on arrive avec nos petits morceaux de casse-tête. Puis moi, j'ai pas les mêmes morceaux de casse-tête que toi à côté.
Ouais.
Mais est-ce qu'il y a... Ben c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui sont confrontés au deuil à partir de la jeunesse. C'est très très jeune là. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qu'on voit qui ont comme des habiletés plus naturelles qui viennent d'eux? Comme je te dis, un peu de leur bagage à eux pour traverser le deuil versus une autre personne. T'sais, comme si on aurait des forces dans... C'est ça. Parce que je me rappelle qui oui. avait quelque chose avec, puis là, tu sais, je me rappelle plus là, les termes, là, mais il y avait quelque chose au niveau du double sort qu'il appelait. C'est comme si, quand tu nais, puis tu es déjà dans un milieu hostile dans ta famille, et que toi-même, tu as un tempérament qu'on pourrait dire avec plus de facteurs de risque, c'est comme si tu as doublement plus de chances d'avoir des séquelles. Versus quelqu'un qui naît dans un environnement hostile et qui a des facteurs favorables. Donc, de, tu sais, justement, dans le tempérament et tout ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on voit qu'il y a des personnes, tu sais, qui ont été dans des milieux vraiment où est-ce qu'il y avait de la violence et tout ça et qui ne vont pas reproduire et qui changent la c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, comme si on voit des fois qu'il y a des gens, comme s'ils ont eu un cours sur le deuil.
Mais il y a des gens qui ont des ressources. On a tous des ressources différentes, là. Mm-hmm. Je pense qu'on a déjà parlé un petit peu.
Oui.
Mais ce qui fait que même une ressource pour un ne sera pas la même ressource pour l'autre, dans le sens où, face à certaines situations intenses, si moi j'ai l'habitude de me couper émotivement, ça me permet de passer au travers, eh bien, c'est bien fait.
Ben oui.
Alors que le voisin qui va vivre intensément une situation difficile, ça va lui permettre aussi de passer au travers, d'aller chercher du support, peu importe.
Oui.
Alors, il y a tous ces aspects-là de ressources intrinsèques là, à l'intérieur de nous, puis il y a tout ce qui est autour de nous qui va nous permettre de traverser des moments en particulier. Alors, oui, il y a le caractère, la résilience, les expériences de vie antérieure qui fait que si ma croyance profonde, c'est que moi, je passe au travers de plusieurs choses parce que mes preuves sont faites, ben, il y a des chances que je passe mieux à travers des moments particulièrement intenses. Mais si j'ai pas eu l'entraînement ou j'ai pas eu de preuves concrètes que moi, quand je pense que quelque chose est difficile, je réussis, c'est plutôt je m'effondre ou je perds pied, ben, typiquement, les gens vont peut-être avoir un petit peu plus de difficultés à traverser le deuil, par exemple, là, ou des événements difficiles. On n'est vraiment pas tous sur un pied d'égalité, mais en même temps, il faut faire ressortir les aspects de force qu'on porte tous.
Mais tu sais, tu vois, moi, déjà, juste quand tu m'as demandé le deuil, puis j'ai dit un tsunami. Bien, tout de suite, dans l'exemple que tu donnais, moi, je m'effondre, là. Et tu sais, je dis ça d'une intensité 10 sur 10. Effectivement, pour vrai, moi, je suis vraiment pas une fille de déni. Je pense que... je pense que je la passe, celle-là. Je pense que je passe tout drette. je la passe vraiment parce que il y a le choc, il y a de la peine, il y a de la colère. Tu sais, tout ça, c'est toutes des émotions, que je, tu sais, je vais vivre, là, des fois tout en même temps, pas en même temps. Mais le déni, boy. Non, moi, j'ai pas ça. Mais j'ai des gens autour de moi, dont une que je pense en particulier, elle, ça a été son mécanisme de survie toute sa vie.
Oui, c'est ça.
Mais elle est une experte dans le déni et mettre en dessous du tapis. Et c'est ça qui fait que des fois, elle vit quelque chose, puis tout de suite, elle est prête à passer à autre chose. Puis moi, je regarde, je fais, mais voyons. Mais je sais que ça va la rattraper à un moment donné, parce que ça la rattrape à un moment donné. Mais dans le moment présent, elle a une super stratégie.
Oui, c'est ça. Des fois, ce délai-là de réaction, ben, il apparaît dans le deuil, effectivement. Puis, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? On ne sait pas. Pour chaque personne, ce sera différent.
Mais c'est ça. Mais dans un autre contexte, on dirait, on le sort de ton déni, là.
Mais faut que tu vives ton deuil. Faut que tu vives tes émotions.
Non, mais c'est ça. Faut que tu vives ton deuil. Tu sais, mais moi, de l'autre base, c'est un tsunami. Mais je suis pas plus disponible là, pour vivre mes émotions là, parce que j'étais à une intensité ben trop élevée là, au contraire là. Mais par contre, moi, mon tsunami se transforme très rapidement en tsunami. Faut que je me sorte de la tempête là, t'sais, donc j'ai l'action très rapide. Puis là, je viens de dire quelque chose, puis en le disant, je me suis entendue. Je viens de réaliser que mon Dieu, si j'étais dans ton cabinet, Annie, je suis sûre que tu m'aurais dit « Ah oui? T'es sûre que ça, c'est pas du déni? » Mais tu vois, c'est ça, dans le fond, c'est comme si ma stratégie d'action fait quand même bien que je me coupe de mes émotions.
Peut-être.
Mais par rapport à l'intensité, parce que c'est trop intense. Je peux pas le manger. Je peux pas le gérer.
Alors, c'est fascinant, l'expérience humaine.
Vraiment?
Le mot qui me vient par rapport au deuil, c'est la complexité, l'unicité.
Vraiment?
De l'expérience du deuil.
Et dans le fond, c'est ça, tu peux pas arriver puis donner un... Moi, c'est ça qui m'avait dérangé en psychologie. C'est que là, il nous donne une formule magique. Tu sais, donc, les étapes. Voici c'est quoi les étapes. Puis là, après ça, on a des études de cas. Puis là, il faut dire, bon, alors, cette personne est dans l'étape de la colère pour telle, telle, telle raison. Puis moi, je trouvais déjà que ça marchait pas. Je me disais, oui, mais ça peut pas être ça. Sinon, c'est bien trop simple. Sinon, on n'a même pas besoin d'en parler du deuil, là. Tu arrives avec ton manuel, puis tu dis, bon, parfait. Là, je vais me préparer. Là, j'ai 6 étapes. Ça va durer à peu près un an. Puis après ça, j'ai coché toutes les cases. Puis voilà, je suis dans l'acceptation. La vie est belle.
Alors, c'est le caractère un peu universel pour lequel tu étais un peu allergique.
Bien, c'est ça.
Puis finalement, de ressortir, l'idée, c'est que ces modèles-là, c'est pour nous faire comprendre à travers quoi les gens naviguent.
C'est ça.
En général, puis c'est bien illustré à quelque part. Ça permet de nous situer, puis de dire, OK, mais typiquement, ce n'est pas une période confortable.
Non.
L'humain a besoin de réconfort. Puis dire, OK, là, je comprends. Là, peut-être que là, je suis rendue à cette étape-là.
Ouais.
Ça soutient, quelque part, la démarche.
Oui.
Mais elle n'est pas universelle, un peu comme une recette de gâteau
c'est
jusqu'à la crème.
C'est ça. Ce n'est pas une recette magique. Est-ce qu'il y a comme une... Tu sais, justement, dans les personnes que tu as accompagnées, est-ce que tu vois qu'il y a comme une émotion, ou tu sais, qu'il y a comme quelque chose que souvent les gens, là... Celle-là, c'est comme si elle est presque pour tout le monde, là.
Ce qui me vient, c'est drôle, hein, c'est qu'on n'est pas tous confortables avec les mêmes émotions. Donc, il y a des gens que ça serait vraiment beaucoup plus de colère, il y a des gens que ça serait plus de tristesse, il y a des gens que ça va être plus émotionnel.
Ouais.
Si, par exemple, moi, je suis pas confortable avec la colère, c'est très possible que je l'exprimerai pas ou je la ressentirai pas autant dans une période de deuil. Mais si j'ai accès à de la tristesse ou de l'impuissance, et c'est quelque chose que je connais bien dans ma vie, c'est possible que ça soit décuplé à ce moment-là. Donc, on n'a pas tous le même confort avec les émotions. Puis, l'idée, c'est de pouvoir les accueillir quand elles apparaissent et non pas les bloquer. C'est ce que je vois souvent, les gens, quand dans mon cabinet, ils éprouvent une grande tristesse puis ils deviennent tout contractés. Je les invite à laisser aller un petit peu, faire de l'espace à cette émotion-là parce qu'elle permet d'être vivante. Et ensuite, de découvrir ce qui vient après.
Ouais. OK, mais là, justement, là, si tu donnes des petites stratégies pour les gens, comme tu dis, d'accueillir premièrement son émotion, de la laisser vivre, mais en même temps, il faut la sortir. Est-ce que c'est parce qu'il faut le ventiler, faut le crier, respirer?
Toutes ces réponses peuvent faire le travail.
Ça peut tout être bon. C'est ça.
Mais on n'a pas tous encore là le même capacité de travailler avec les émotions.
Exact.
Donc, des fois, il faut y aller à la petite bouchée, hein. Juste laisser entrer un peu la tristesse ou la laisser s'exprimer petit peu par petit peu pour qu'il y ait une possibilité de contact avec ces émotions-là qui sont parfois plus compliquées. Ce qui fait que de relâcher dans le corps l'intensité qui apparaît, juste dire, OK, c'est comme un peu une grosse vague. Tu sais, quand on avale une tasse, puis on arrête de respirer presque. Mais c'est, OK, prendre le temps de, OK, ça va passer, on se donne du temps. Puis ça vient comme une vague. Ça passe. Puis des fois, ça nous prend en plein visage, puis on ne s'y attend pas.
Oui, c'est ça, là.
C'est fou.
Et comme tu dis, c'est pas parce que là, je suis dans la tristesse. Tu sais, moi, quand j'ai une situation qui me rend triste, c'est pas parce que je vais être 4 mois à la tristesse, là.
Exactement.
C'est ça. Ouais. Des fois, c'est... J'écoute une émission, il se passe de quoi, parce que là, je me rends compte que je vois pas telle chose. Là, j'ai de la peine. Mais j'ai pas de la peine le lendemain matin, là, c'est correct. Mais ça me fait me rendre compte, par contre, quand ça se passe, que je me dis, oh, c'est vrai, j'ai encore de la peine, finalement.
Ben oui, c'est ça, ça arrive encore.
C'est ça arrive encore, puis c'est correct.
Ben oui.
Parce que tout correct. ça nous amène tout le temps à cheminer à travers tout ça. Et moi, comment je le vois, bien, c'est qu'au fur et à mesure, c'est moins pire. T'sais, une période de telle émotion, avant, c'est plus long. Puis de plus en plus je vieillis, on dirait que ça peut passer plus vite. Oui, donc, oui. C'est encourageant. C'est à quel endroit, Annie, qu'on peut te retrouver?
Ben, on peut par Internet, on peut me trouver facilement. Oui. Voilà. Bien, j'espère que ça a pu aider un peu à rendre les choses
oui.
un peu plus
douces. Ah oui, vraiment. Mais même moi, j'ai cheminé à travers les concepts que tu me donnais. Merci beaucoup, Annie. Ça a été un plaisir, comme à chaque fois.
Ben oui, un grand merci.
Merci.
Bonne journée pour vous autres.
Oui, merci. Et je remercie mes beaux invités aujourd'hui, Karine Descoteaux de l'organisme AERA à Trois-Rivières et Annie Perrault, évidemment, hein, psychologue. On a décortiqué le deuil. C'était vraiment intéressant. Vous pouvez réécouter les émissions sur le site de Canal M et dans toutes les autres plateformes. Et là, je m'amuse à dire Spotify parce que j'écoute régulièrement Spotify. Et quand je me vois, Mission Vision, oh là là! Et merci Mathieu à la mise en onde. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!